Bonjour, c'est Par ici la musique. On débute l'émission avec un extrait d'un des albums de Nanzouk, Chant libre. Justement, notre invité, c'est Jeff Fleury, le saxophoniste, avec qui on parle bien sûr du projet Nanzouk, ce qui l'a amené jusque-là, notamment le groupe Tash et d'autres expériences musicales. Et puis, la passion qu'il partage aujourd'hui avec Carlos Tavares, Yannick Gostelli et quelques autres. Jeff Fleury, saxophoniste, aujourd'hui dans Par ici la musique. Quand tu es arrivé, tu étais en train de préparer des dossiers pour la suite de Nanzouk. C'est un dossier important sur lequel tu travailles aujourd'hui, là.
C'est un dossier très important. C'est le nouveau projet de Nanzouk qui va voir le jour en 2014 et dont tu as la primeur aujourd'hui. Ce dossier, ce sera un gros projet avec quatre invités, dont Hans Koch, notamment, avec qui on a déjà travaillé, et Samuel Blaser, le tromboniste Chaudfonnier, avec qui on a aussi travaillé. Et puis ensuite, deux nouveaux venus dans notre collaboration, Yann Altermat au saxophone alto et Julia Monti aux flûtes, diverses flûtes, qui sont deux amis avec qui on a toujours eu envie de travailler, et puis ça ne s'est encore pas fait jusqu'à ce jour. Donc depuis 2014, avec ce nouveau projet qui a un titre un peu long, mais qui dit bien ce qu'il doit dire, c'est Mes amours à Crown 14-18, donc un titre où on entend que 14-18, on va parler de guerre, mais on va peut-être entendre musicalement la guerre, mais on ne va pas en parler en texte, ce sera un projet que musical.
Par ici, la musique.
Alors, ce qui est intéressant, finalement, dans une telle émission, c'est de savoir comment on en arrive jusque-là. Quel a été le parcours de Jeff Fleury jusqu'à ce projet, Mes amours à Crown 14-18. Au début, eh bien, c'est dans les années 70, c'est un duo de chansons.
Effectivement, c'est un duo qui a commencé suite à diverses choses. J'avais un voisin, Yvan Roquier, qui jouait de la guitare, enfin, qui joue encore aujourd'hui de la guitare. Et puis, on avait travaillé des textes. Je m'étais mis à écrire des poèmes, comme font souvent les adolescents. Mmh. Et puis voilà, un jour, Yvan me dit, j'ai mis un texte en musique d'une amie. Et puis moi, je lui dis, ah mais j'ai plein de textes, on pourrait faire quelque chose. Ça a démarré comme ça. Donc c'était en 1972.
Il n'avait qu'une pomme, une pomme pour deux. Lui se croyait un homme, elle voulait Dieu. À partager la pomme, à qui ils ont hésité. Mais que diable en les tombe, et se laisse inciter. Et c'est un peu tremblant qu'ils ont croqué la pomme. Oh le destin troublant d'une femme et d'un homme. Et c'est un peu tremblant qu'ils ont croqué la pomme. Oh le destin troublant d'une femme et d'un homme. Simplement une fois.
Et ça donne naissance à quelques chansons, un tour de chant. Vous vous êtes présenté, vous êtes monté sur scène. Quels sont les souvenirs qui te restent aujourd'hui?
Il me reste pas mal de souvenirs parce qu'on était à Moutiers, en pleine période plébiscitaire. Donc il y avait une effervescence culturelle magnifique. Et puis on a eu la chance d'en profiter. Comme nous étions autonomistes, on a eu la chance d'être engagés dans diverses manifestations culturelles. Principalement organisé par exemple par Jeunesse Sud. Et puis on a pu faire pas mal de concerts dans le Jura avec ce duo qui s'appelait tout simplement Jeff Yvan, parce que voilà. Et puis ensuite ce duo a donné naissance à un groupe qui a toujours travaillé la chanson et puis qui s'appelait Tash. Et là on avait un groupe plus orienté vers le rock avec donc Yvan toujours à la guitare, un bassiste, un batteur et, ce qui était relativement rare pour l'époque, un violoniste.
Les enfants du voyage voguent à la dérive. Ils s'éloignent des plages, n'accostent plus aux rives. Ils ont tant de soleil dans les yeux qu'ils ont l'envie de vivre. Ils ont tant de folie, tant de feu, que l'amour se délivre. océan d'azur, voilier blanc, coconut cru, dauphin d'argent, vol planant des grands goélands.
C'est quelqu'un qui est curieux, qui a envie d'aller voir des spectacles. La base, c'était cet enrichissement, cette découverte, cette curiosité.
Ben, le fait d'être à Moutier dans cette période-là, évidemment, ça crée un réel éveil et puis aussi une curiosité. Puis ensuite, par la suite, ben, évidemment, j'ai découvert le Café du Soleil à Seine-Légier. J'ai découvert un jazz contemporain, pas simplement le Glenn Miller de mon père. Et puis là...
Il écoutait Glenn Miller, ton père ?
Absolument, oui.
Ah, donc il y avait quand même du jazz à la maison ?
Il y avait quand même un peu de jazz à la maison, mais par contre, il avait très peu de disques. Donc j'étais plutôt assis derrière la radio en train d'écouter la musique, les nouveautés du disque ou ce genre de choses à l'époque. Mais là, tout à coup, bah, je suis allé peut-être une fois par hasard, presque, ou quand il y avait une fête au soleil. Je me souviens, il y avait une fête dans la grange à l'époque, ce qui est devenu aujourd'hui la salle de concert du soleil. Et puis, depuis ce moment-là, je suis allé pratiquement à chaque concert de jazz pendant une vingtaine d'années au Café du Soleil. Et c'est là que je me suis enrichi, que j'ai appris à connaître un autre jazz, pas seulement le jazz traditionnel.
Ça veut dire qu'au début, tu vas en tant que simple auditeur, et puis, par la suite, tu apprends à décortiquer un peu cette musique.
Alors, évidemment, je suis allé comme simple auditeur. J'ai découvert, j'ai pas décortiqué tout de suite, mais à un moment donné, dans les années 80, j'ai réalisé un vieux rêve, j'empoignais un saxophone, et puis depuis ce moment-là, je me suis mis à réellement étudier la musique, à étudier le jazz, avec différentes méthodes.
Pourquoi le saxophone ? Qu'est-ce qui t'amène au saxophone ? Tu as touché un tel instrument quelques minutes, puis tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire ?
C'était ça, quand j'étais étudiant, en fait, un ami un jour a amené à apporter un saxophone. J'ai touché l'instrument, j'ai tâté, j'ai soufflé dedans, je ne sais pas, j'ai peut-être pas sorti grand-chose comme son. Et puis, quelques années plus tard, il m'a fallu pas mal de temps pour digérer ça, je pense, mais le fait que... mon ami Yvan part une année, le fait que le groupe qu'on avait à l'époque Tâche fasse une pause, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion de réaliser un vieux rêve, et puis de pas seulement toucher un saxophone, mais de le prendre vraiment, et puis d'essayer de sortir des sons. C'était pas triste au départ.
Recherche aujourd'hui autour du saxophone, Jeff Fleury.
Alors pendant longtemps, j'ai cherché à avoir un son, à avoir mon son. Et puis, je pense que j'y suis vraisemblablement arrivé. En tout cas, aujourd'hui, le son que j'entends sortir de mon instrument est celui que j'ai envie d'entendre. Maintenant, évidemment, on n'a pas la même perception quand on le joue que quand on est auditeur. Mais ensuite, par contre, et ça c'est assez marrant parce que je disais qu'au départ c'était un peu cruel les sons qui sortaient de mon saxophone, par la suite, bah, j'ai, par rapport à la musique que je travaille aujourd'hui, donc la musique de l'instant, ou autrement dit les musiques improvisées, j'ai recherché à retrouver des sons qui sont des sons pas toujours très beaux, qui sont des sons un peu criards, qui sont des sons où on travaille, on fait des recherches pour modeler, pour moduler le son. Et puis finalement, une fois quelqu'un m'a fait une remarque, il me disait, mais je suis sûr qu'au début, ces sons-là, tu les faisais déjà. Et alors au début, j'ai cherché à les abandonner, puis aujourd'hui, je cherche à les retrouver. La technique n'est pas la même, évidemment.
Par ici, la musique.
Le saxophone est un instrument riche dans les sons, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sons multiples, on peut avoir des sons sur aigus, on peut avoir des sons soufflés, on peut faire des bruitages, on peut faire slapper, ça veut dire faire pratiquement de la percussion. Donc c'est un instrument qui est assez riche, même si au départ c'est pas un instrument très juste, il faut le travailler pas mal pour être juste. Après, il nous offre toute une palette de possibilités. Et puis, en même temps, ça a l'avantage d'être un instrument soliste aussi, donc forcément, si on est dans une section de saxophone, on a une ligne, c'est aussi intéressant, mais on peut aussi s'exprimer en tant que soliste, et puis ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Venant du chant, par exemple, ça correspondait pas mal. Et puis, je trouve que le saxophone, d'ailleurs, est un instrument qui est très très proche de la voix. Donc... aussi avec les sons rauques qu'on peut faire, on peut travailler le son d'un saxophone comme on peut travailler sur sa voix finalement.
Thank you.
la musique.
86, c'est la fin de Tâche. 95, c'est le début de Nanzouk. Qu'est-ce qui se passe entre deux?
Entre deux, il se passe la création d'un quartet de jazz déjà, qui va donner naissance à Nanzouk. En fait, c'était presque la même formation que Nanzouk, hormis le batteur. Et puis ce qui a vraiment créé Nanzouk, c'est l'arrivée d'un batteur qui s'appelle Thomas Janscher et qui va insuffler au groupe la volonté d'aller plus loin et puis de faire un premier CD. Mm-hmm. Donc, suite à cette idée, on a dit, bon, cette fois-ci, on va quitter le nom. On s'appelait avant Phrase Quartet, ce qui n'était peut-être pas très bon. Et puis, on a dit, il faut créer maintenant un nom, il faut trouver un nom. Et puis, à partir de là, inviter quelqu'un pour ce CD et puis travailler, aller de l'avant, trouver des concerts. Et puis, Nanzouk, à partir de là, a pas mal tourné autour de ce CD qui s'appelait Chant Libre.
Nanzouk, le nom, il vient d'où?
Alors, Nanzouk, c'est une compilation de deux mots. Le premier mot, c'est le Nanzouk. Le Nanzouk, c'est une étoffe qui est utilisée dans la lingerie féminine. Et puis le deuxième mot, c'est plus personnel, j'appelais ma fille Nanouche. Alors d'où vient Nanouche, Nanouchka, Nanouche, je ne sais pas exactement, mais enfin c'était un petit mot que j'utilisais pour ma fille. Et puis j'ai assemblé ces deux mots pour créer Nanzouk. C'était une idée, on avait d'autres propositions à l'époque et on a retenu celui-là. Et puis depuis, malgré les différents projets, malgré l'évolution du groupe, puisqu'on est parti en 95 du jazz fusion pour arriver aujourd'hui à des musiques libertaires, on a gardé ce nom et puis une partie des musiciens ont suivi, mais on s'associe pas mal à d'autres musiciens aussi. Nanzouk, c'est une histoire d'amitié. Donc les gens qui ont travaillé dans Nanzouk sont tous devenus ou étaient déjà des amis. Donc à partir de là, ça paraissait normal que le groupe, que la base du groupe reste la même. Après, il y a eu quelques petits changements, mais ce qui a changé principalement, ça a été les projets. Puisque du départ du premier disque Chant Libre à La Pénombre et Choses Musicales, qui est déjà un travail beaucoup plus libre, où les compositions, la partie écrite est moins importante et les parties improvisées plus grandes, ou pour arriver après au travail qu'on avait fait autour du peintre Stéphane Montavon, où là aussi la partie écrite s'est encore réduite. Et puis finalement, pour arriver à la carte blanche que j'avais eue à Tavannes, où on a invité Hans Kor, où là, il n'y avait plus rien d'écrit. Donc ça a été un long cheminement, puis finalement, c'est une évolution. Et puis, ce qui était très important, ou ce qui l'est toujours, c'est que les membres de Nanzouk ont décidé de suivre cette évolution. Même si tout le monde n'a pas toujours été persuadé à chaque moment que c'était la bonne direction. Donc ça, c'est moi qui faisais des propositions. Et puis à partir de là, chacun s'exprimait et puis on définissait. Donc il a fallu tout un cheminement pour arriver à la musique improvisée.
Côté visuel est important aussi, c'est un complément important à la musique, à ton avis, Jeff?
C'est très 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 important. J'en reviens peut-être encore une fois au Café du Soleil, parce que le Café du Soleil, évidemment, on est allé y écouter du jazz, mais on voyait des expos. Voilà. Donc, avec le Café du Soleil, j'ai aussi appris à connaître différents artistes, différents peintres, dont notamment Gérard Tolk, qui était un ami. Et puis, suite à ça, je me suis intéressé de plus en plus à l'art pictural principalement. Et puis, de fil en aiguille, j'ai appris à connaître plusieurs peintres, beaucoup de peintres jurassiens, des galeristes aussi. Je donne même des coups de main actuellement à l'Arsenal Adlémont, par exemple, pour l'organisation des expositions.
On est entouré là de tableaux de peintres jurassiens dans la pièce où on se trouve.
Absolument. Entre Stéphane Montavant, Pierre Marquis, Sylvie Aubry. Dernièrement, je suis allé voir une exposition à Chevenet de Jutard, qui est une exposition que je recommande chaleureusement, qui est magnifique. L'art pictural a toujours été très important pour moi. Et puis, les arts plastiques aussi, puisque dans la pénombre des choses musicales, c'était un travail qui a été rendu possible grâce à Eric Ries, le galeriste et céramiste des Émibois. Aussi une grande amitié avec Eric. Donc tout ça... Tous ces éléments-là ont fait que, pour moi, la musique est indissociable de l'art en général.
Par ici, la musique.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'instrument que tu pratiques depuis 6 ans environ, c'est le hang. Alors c'est un instrument suisse, c'est un instrument tout à fait étonnant.
C'est un instrument qui allie percussion et ligne musicale. C'est un instrument qui effectivement est fabriqué à Berne actuellement. Et puis cet instrument, je l'ai découvert tout à fait par hasard. J'ai eu la chance de pouvoir en acheter deux. Et puis de les travailler principalement en accompagnant des lecteurs, des conteuses aussi aujourd'hui. Et puis de me retrouver après avec notamment Philippe Tarin, avec qui on travaille, on accompagne des conteuses. Et puis je trouve que vraiment c'est un instrument qui est magnifique pour ce genre de travail-là. C'est pas un instrument avec lequel, à mon goût, on peut faire un concert complet. Parce que autrement il y aurait une forme de monotonie, ou bien c'est quand même un instrument qui est empreint de tradition, de folklore. Donc après, on aime ou pas, on est loin du monde du jazz là. Même si on peut l'utiliser un peu peut-être dans des ambiances, mais ça s'arrêterait là pour le jazz.
Il y en a un là, c'est quoi? C'est le deuxième celui-ci ou le premier que tu avais commandé?
Ça c'est le deuxième.
Toute une histoire. Hein.
Toute une histoire, oui. C'est un instrument que... Déjà que j'ai fait faire, et puis ce hang, quand il l'a eu terminé, il faut savoir que les ateliers où il les fabrique, où les fabriquait, sont au bord de l'Aar à Berne, et puis c'est l'année où il y a eu les grandes inondations. Donc c'est un hang qui a été inondé, qui a été recuit, mais qui sonne très bien.
Tu peux nous le faire sonner là ?
Je peux essayer ça.
Sur le jeu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette note, si
celui-là, ouais. Ouais.
Et puis quand tu tapes au milieu, c'est la basse, les coups de basse un peu.
Pas seulement, c'est aussi un ding.
Ah oui.
Là, je vais utiliser plutôt avec les basses, pour pouvoir faire comme ça aussi. Donc, l'idéal, effectivement, c'est peut-être d'être deux musiciens, parce qu'un peut faire plus la percussion, l'autre plus la mélodie. Donc, quand on travaille avec Philippe, on travaille plutôt comme ça.
Quand on fait un quartet de hang lors de la carte blanche à Tavannes, ça devait être quand même assez, assez exceptionnel aussi. Il devait y avoir quelque chose.
Ça, c'était complètement différent, effectivement, parce qu'on a travaillé... D'abord, il fallait trouver comment écrire pour quatre hang qui étaient complètement différents. Et puis, à partir de là, ben, une fois que j'avais trouvé la solution pour ça, il fallait faire créer quelque chose qui soit original. Donc on a des musiques qui sont dissonantes, on a des musiques qui sont très rondes, on a des rangs qui sont percussifs, d'autres qui font la mélodie, il y a un peu de tout.
Il n'y a pas de partition finalement écrite pour un...
Non, pas à ma connaissance en tout cas. Donc tout ce qui a été fait, notamment dans la carte blanche, moi, je l'ai écrit. Donc à partir de là, c'était des idées musicales qui sont inspirées parfois aussi de morceaux qui eux-mêmes se sont inspirés du folklore.
Après le hang, on est passé au Lubi Hang Quartet. C'est justement un extrait de la carte blanche que tu as partagé avec quelques-uns de tes amis en juin 2010. C'est toujours un souvenir important pour un musicien de la région de faire une carte blanche au Royal à Tavannes.
C'est non seulement un grand souvenir, mais c'est, pour moi, c'était quelque chose d'inattendu. Un jour, Yvan Vecchi m'a appelé et puis me dit « Jeff, t'es un homme de défi ». Je lui dis « Je me méfie un peu, je ne savais pas ce qu'il entendait par là, je ne savais pas s'il voulait que j'aille jouer le soir même à Tavannes ou... ». Et puis je lui réponds que oui, mais que ça dépendait quel défi. Et puis il m'a proposé la carte blanche. Et puis évidemment, c'était... quelque part, je crois que c'était pas mal un honneur quand même. Je me suis senti tout à coup accepté de la grande famille des musiciens jurassiens. Quand je dis jurassien, j'entends au sens large du terme, hein, de l'art jurassien. Et puis, évidemment, j'ai accepté et puis j'ai proposé beaucoup de choses. Donc, j'ai aussi invité un peu tous mes amis avec qui j'avais partagé des projets jusque-là.
Même ton fils ?
Même un de mes fils, oui, qui jouait à cette époque-là dans un groupe de reggae.
C'est sympa de pouvoir partager cette passion en famille ?
Alors, on la partage souvent, puisqu'on on parle beaucoup de musique, évidemment, surtout avec Loïc, puisque lui continue actuellement dans un groupe de rock aussi. Et puis, autrement, c'est important, on discute beaucoup de musique, oui.
Quant à Nanzouk, vous avez deux, trois concerts prochainement. Il y en a un dans la région, puis je crois un dans le canton de Neuchâtel dans quelques semaines ou quelques mois.
Alors oui, c'est bien que tu en parles parce que ces projets-là, c'est une lecture musicale. C'est un texte de Christophe Galla qui est lu par Gilles Jobin. Et puis là, Nanzouk, c'est donc le trio Nanzouk, donc Carlos, Yannick et moi. Et puis le trio de Nanzouk, là, a comme invité, donc c'est Nanzouk Trio Plus, de nouveau, a comme invité un accordéoniste qui s'appelle Alain Voutli, et avec qui on avait déjà travaillé une lecture par le passé. Donc là, on est dans un autre type de projet lecture, avec des musiques qui sont... parfois plus écrite. Pour celui-là, pas. On a aussi beaucoup d'improvisation. Par contre, la musique est au service du texte, mais ne l'illustre pas. C'est assez important.
Psst, par ici la musique.
C'est la fin de Paris ici la musique pour aujourd'hui. Je rappelle ces deux concerts le 9 mars à la Farbe de Lémont et à Beuvais au Moulin de l'Aristoloche. C'est le 15 mai. Vous retrouvez toutes les informations sur le blog de Paris ici la musique et également un lien sur le site de Nanzouk où vous retrouvez tout ce qui concerne Jeff Fleury et toutes les passions qu'il a bien voulu partager ici. Au revoir et à bientôt.